Bonjour à tous. Dans la grande table des idées aujourd'hui, quelle fabrique du consentement en démocratie? À partir de 12h55, nous vous donnons rendez-vous avec l'historien américain des médias Stuart Ewan, de passage à Paris à l'occasion de la soirée Propagande et démocratie conçue et organisée par l'INA, un retour aux sources de la propagande et des relations publiques à retrouver donc dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, Nathalie Léger au nom de la mer. Après Les vies silencieuses de Samuel Beckett, la romancière avait séduit la critique et les lecteurs avec supplément à la vie de Barbara Loden, consacrée à la femme d'Elia Kazan, réalisatrice d'un film, Wanda. Et elle revient aujourd'hui avec un livre autour de la figure intime de l'artiste performeuse Pippa Bakka, La robe blanche, chez POL, sur le geste artistique, sur le rôle de l'art, sur la mémoire, laisser une trace ou pas, la romancière. Et notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Tout pourrait commencer par une image. Que fuit-elle? Que cherche-t-elle? Une femme, le pouce levé, le sourire aux lèvres, sur un bord de route, en robe de mariée. Cette photo se dédouble et prend corps dans une grande tapisserie accrochée dans la salle à manger et surplombant nos repas. L'assassinat de la dame, réalisé d'après l'un des panneaux peints par Sandro Botticelli pour la commande d'un cadeau nuptial. Ça, ce sont vos mots. Bonjour Nathalie Léger.
Bonjour.
Et le dédoublement, c'est moi qui l'ai imaginé. La photographie dans l'exposition parue chez POL, le cinéma dans supplément à la vie de Barbara Loden. À l'origine de vos textes, il y a toujours une image, une représentation. La première image que vous gardez de Pippa Bakka, quelle est-elle?
C'est celle d'une jeune femme qui s'élance sur les routes d'Europe en robe blanche pour sauver le monde. C'est son projet, c'est son intention. Et au fond, le livre existe parce que j'ai voulu interroger ce geste, qui est à la fois un geste de rédemption. C'est une drôle de chose de vouloir rendre justice avec une robe blanche sur les routes d'Europe pour porter le bien à travers les pays en guerre. Et voilà, c'est le fil conducteur et c'est peut-être cette image initiale que vous avez évoquée.
Cette femme en robe blanche avec son baluchon sur l'épaule, elle n'a rien d'une femme fuyant l'annonce, ni son promis à une seconde du oui. À l'église, elle n'allait épouser personne, ou plutôt c'est au monde tout entier qu'elle voulait s'unir dans cette belle harmonie. Le projet est complètement fou quand on y pense. Hein.
Le projet est fou. C'est vrai qu'elle ne, semble-t-il, elle ne fuyait rien, mais peut-être sinon elle-même. Elle avait en revanche un projet très, très constitué, très formulé, très préparé. Hein. 2 ans durant, cette jeune artiste milanaise a bâti cette folle expédition qui devait la conduire de Milan à Jérusalem avec des étapes très préparées. Dans chaque étape, elle rencontrait des sages-femmes et tout en leur faisant un lavement de pieds, toujours en robe de mariée, elle devait les interroger sur... Elle voulait, et elle l'a fait d'ailleurs, pour une partie de son voyage, elle les interrogeait sur le sens de la naissance, de la vie. Tout cela était très construit, peut-être trop, on ne le sait pas. C'était cette énorme intention, cet énorme symbole, celui de la robe, celui du lavement de pied, celui par lequel elle voulait porter l'harmonie. Elle avait un projet.
Elle était illuminée. Vous avez cité le mot de rédemption tout à l'heure. Là, on parle du lavage de pied, on parle de cette harmonie qu'elle voulait distribuer. C'était un geste profane pour vous ou totalement religieux?
À mi-chemin, entre les deux, illuminée certainement pas, je crois que c'était une vie avec une énergie folle, tout le monde l'a décrit comme très inventive, vivante, beaucoup d'amis, beaucoup de... et une forme parfois de, comment dire, de saine brutalité dans la manière dont elle organisait ses relations avec les autres, dont elle vivait, dont elle était capable justement de partir sur un coup de tête. Il ne s'agit pas de ça du tout là, puisqu'elle était aussi capable de construire son travail artistique, hein, de construire un geste. Et elle, c'est une performance, c'est ce qu'elle dit. Maintenant, il y a aussi sans doute dans cette idée de rédemption qui était le sien, de réparation, d'harmonie, il y a quelque chose, oui, qui relève peut-être d'un engagement religieux, je ne le sais pas précisément, en tout cas d'une certaine idée du monde, de soi dans le monde et des gestes qu'on peut faire pour elle voulait faire le bien, incontestablement.
Sauf que, à mi-chemin, son voyage va tourner au drame. Elle est violée puis tuée par un homme qui l'avait prise en autostop au sud d'Istanbul. Les infos ne manquent pas d'en parler.
Tornerà questa sera intorno alle 21. Un volo all'Italia da Istanbul a Milano Malpensa per l'ultimo viaggio di Pippa Bacca, l'artista milanese violentata e uccisa in Turchia lo scorso 31 marzo. Pippa, nipote di Piero Manzoni, geniale artista milanese, scomparso a soli 30 anni nel 1963, amava il verde. La famiglia avrebbe voluto una bara di quel colore, ma leggi e regolamenti non lo permettono. E poi si parla tanto di libertà, sussurra Elena Manzoni, madre di Pippa.
La mère de Pippa, vous avez pensé la rencontrer, ou en tout cas votre narratrice, sans y être allée. Pourquoi? Vous avez énormément travaillé ce sujet, documenté, vous êtes allé retrouver tout ce qu'on pouvait retrouver pour tenter de comprendre le geste de cette femme.
L'histoire est étonnante, elle a défrayé la chronique italienne, on ne la connaît pas en France. Mais l'histoire est étonnante parce qu'il y a, cette blancheur tellement chargée de projets, d'intentions, et il y a la noirceur de cette chute. Il y a ce geste d'espoir qui se termine en tragédie, et il y a même cette tragédie qui tourne en grotesque, puisque la fin de l'histoire, si l'on peut dire, c'est que le tueur, l'assassin de cette jeune femme, on est en 2008, hein, je sais pas si on l'a dit, mais l'assassin se saisit de la caméra de Pippa Bacca, bien sûr qu'elle filmait son travail, elle postait sur Internet ses étapes de lavement de pieds. L'assassin se saisit de sa caméra et jusqu'à son arrestation n'a pas cessé de filmer. Et qu'est-ce qu'il a filmé? Ça a été retrouvé dans les images d'archives, de la caméra. Qu'est-ce qu'il filmait? Eh bien, il a filmé un mariage. Et là, soudain, l'horreur franchit encore un pas et éclate dans une sorte de rire terrible, sardonique. Puisque, au fond, comme certains l'ont dit, avec non moins de dureté, il a fait ce qu'elle n'avait pas su faire. Mais en tout cas, là, il y a un geste fou qui vient clore cette tentative, cette folle tentative, mais on peut dire cette magnifique tentative. Le geste de Pippa Bacca n'a pas réussi, mais elle l'a tenté.
Aujourd'hui encore, Nathalie Léger, après avoir été habitée par cette histoire, après en avoir fait un livre, vous employez encore le conditionnel des « semble-t-il ». Dans supplément à la vie de Barbara Loden, il y avait déjà l'envie d'éclairer les zones d'ombre intimes de l'actrice réalisatrice de cet unique film. Wanda cherchait à comprendre en admettant qu'on ne peut pas tout. Vous écriviez « On ne saura jamais d'où vient la blessure qui condamne Wanda à la désolation. On ne saura jamais quelle ancienne trahison ou quel abandon lointain l'ont plongée dans ce désarroi sans aspérité et sans partage. » Alors, est-ce que vous avez percé un peu le mystère de Pippa Bacca? Pourquoi elle s'était mise en tête de rendre le monde meilleur? Et est-ce que vous seriez intéressé à elle s'il n'y avait pas, justement, une fêlure, une blessure, un mystère perceptible quelque part?
Peut-être pas, pour beaucoup de raisons. C'est vrai que je souhaitais travailler sur la performance. Vous l'avez rappelé, au fond, un des prétextes de la Castiglione, c'était l'exposition, pour mieux parler d'autre chose. Wanda, c'est le cinéma, sans doute pour mieux parler d'autre chose aussi. Et j'avais très envie de travailler sur la performance, parce que c'est une histoire, c'est un moment de l'art majeur, passionnant, et dans lequel les femmes ont, de manière très transgressive, dit quelque chose, notamment dans les années 70. Mais il est vrai que pour faire récit et sans doute pour venir jusque dans la littérature et pour non pas échapper, enfin pour éviter l'essai sur la performance, il fallait un destin, c'en est un. Mais il fallait d'abord et avant tout, parce qu'il y a quelque chose de romanesque dans ce parcours. Mais il fallait avant tout autant de matériaux pour interroger, au fond, à travers elle, ce que chacun d'entre nous, nous pouvons être amenés à tenter. Et il n'est pas question de réussir, et de même il n'est pas question de répondre, mais d'interroger, à tenter de réparer, de voilà, de, d'exister.
Un geste absurde, selon toute apparence, écrivez-vous. À défaut de pouvoir les comprendre, il faut prendre au sérieux les gestes les plus fous. C'est inextricable, hein, cette situation. Pour nous tous, comme pour l'écrivain que vous êtes, Nathalie Léger, la performance, elle est effectivement centrale dans ce récit, roman, La Robe Blanche, qui vient de paraître chez POL. Et elle est ici, à travers le geste de Pipa Baka, extrême, radical, et pas sans rappeler, d'ailleurs vous l'évoquez dans ce livre, celui de l'artiste serbe Marina Abramović. Lacération, congélation, électrisation. Elle a tout fait subir à son corps, elle a mélangé, fusionné douleur et création. L'une de ses performances, Rhythm Zero, Rythme Zéro, en 74, avait même failli très mal tourner. Rappelons, c'était un peu plus de 70 objets disposés autour d'elle, dont un pistolet chargé. Le public était libre de les utiliser comme il le souhaitait.
Mes pièces les plus extrêmes sont celles où j'ai vraiment cherché à repousser les limites de mon corps. Parce que je n'ai jamais voulu mourir, la mort ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'où on peut repousser les limites de l'énergie du corps humain. Jusqu'où on peut aller. Et puis de voir que, en fait, notre énergie est presque sans limite. Il ne s'agit pas du corps, il s'agit de l'esprit, qui vous pousse jusqu'à des extrêmes que vous n'auriez pas pu imaginer. Rythme Zéro a été l'un de mes travaux qui a retenu le plus l'attention du public. À cette époque, l'artiste qui faisait de la performance était vu comme totalement ridicule. Et l'on pensait qu'il était malade, et qu'il était exhibitionniste, et qu'il était masochiste, et qu'il voulait juste attirer l'attention sur lui. Donc j'en avais vraiment assez de ce genre de critique, et j'ai dit « Ok, je vais faire cette pièce pour voir jusqu'où un public peut aller si l'artiste lui-même ne fait rien ».
Jusqu'au boutiste, extrême, radical, La Robe Blanche est une nouvelle variation, vous l'évoquiez, autour de la féminité, de la pureté, de l'innocence, de la fragilité aussi. Et dans cette performance, celle portée par Pipa Baka, comme celle portée par Marina Abramović, on voit que ce geste artistique devient aussi une arme, plus que féminine, féministe d'ailleurs. Pourquoi les femmes se sont emparées de cet art, se sont emparées de cette manifestation?
Je crois qu'elles s'en sont emparées, et avec l'inventivité et la diversité des formes. Hein. On parle de Marina Abramović, mais Vanille Export, Caroli Schneemann. Chacune à sa manière a tenté de dire, parfois dans le paroxysme, dans la violence, ce qui sans doute leur était interdit sur d'autres scènes. Une scène discursive, une scène politique, une scène peut-être de l'écriture, quoi que c'est. Mais qu'est-ce que c'est qu'une performance ? Mille manières de le décrire, mais c'est l'irruption de quelqu'un. C'est quelqu'un qui surgit dans l'espace public, qui l'ébranle, qui l'interroge, qui l'ébranle. Il n'y a pas que les femmes qui ont posé des gestes fracassants ou tout simplement intrigants, qu'on a envie de suivre, parce que soudainement, ils déplacent les choses. Mais c'est vrai que les femmes l'ont fait avec une intensité particulière. Yoko Ono, par exemple, Yayoi Kusama, enfin, elles sont innombrables et toutes passionnantes, vraiment. Mais c'est pour dire autrement une vérité, qui est une vérité à la fois une vérité de la pensée, une vérité du sentiment, et elles ne peuvent le dire que dans cette manière de s'exposer, voilà, d'exposer leur corps. Alors, Marina Abramović fait, tout au long de sa très grande artiste, elle le fait toujours dans un cadre. C'est-à-dire que même quand elle met un flingue sur la table avec parmi les 70 autres objets...
D'autres étaient beaucoup plus doux. Hein.
Voilà, ouais. Il y a un cadre. Il y a un moment, il y a le directeur de la galerie qui arrive et qui, au bout de 6 heures, dit « c'est fini ». Et ce que d'ailleurs Marina Abramović, qui a été interrogée par un journal italien sur Pipa Baka, a dit, c'est que le cadre n'existait pas. Tout était tellement ouvert que le processus même du geste artistique se dissolvait dans l'espace public.
Et La Robe Blanche, parce qu'elle a aussi travaillé l'art, cette belle robe blanche que toutes les petites filles rêvent de porter un jour, de Sophie Calle, Annie Kidd Saint-Phal. Vous avez retrouvé plusieurs figures d'artistes en robe blanche ou sans robe blanche, parce que maintenant elles s'exposent aussi sans le corps de l'artiste ou de la femme à l'intérieur. Comment la robe blanche, qui est quand même un des attributs presque de la femme à travers cette image de la jeune mariée, à laquelle on a longtemps aspirer, devenir cette femme-là, comment est-elle passée dans le domaine de l'art? Qu'est-ce que ça évoque aujourd'hui?
Mais justement parce que c'est un emblème, et c'est un emblème, c'est un signe d'adhésion, raison de plus pour le torturer, pour l'interroger en le déchirant, en faisant une surface de toutes les projections. Cette blancheur, elle réunit. C'est un symbole de, c'est même un signe social, presque un graphème ethnographique, enfin. Mais c'est aussi un support de projection. C'est un objet fantasmatique. Et dans cette blancheur, il y a la possibilité de tout écrire, à commencer par les illusions. Et c'est, je crois, il est terriblement tentant de s'en emparer pour le défaire, pour le déconstruire, pour en faire un tout autre espace de projection, celle sans doute non plus des illusions heureuses, mais et sinon des illusions perdues, mais en tout cas d'une certaine forme de souffrance ou de rébellion, d'inventivité ou de jubilation,
Et vous, Nathalie Léger, vous les projetez dans quoi, vos illusions?
Peut-être dans l'écriture, peut-être dans l'idée, qui sait, fausse peut-être, d'avoir réussi à dire quelque chose. Ça crée illusion.
Même quand les artistes sont maladroits, quand leurs pensées sont confuses, quand leurs gestes sont inaboutis, écrivez-vous, les performances disent obstinément quelque chose de vrai. Est-ce que cette quête de vrai, elle est commune pour vous, à vos yeux, aux artistes et aux écrivains, à la littérature?
Il s'agit bien sûr d'une vérité intime. Hein. Il ne s'agit pas d'une grande entité omnisciente, évidemment, ça va de soi. Et cette vérité des sentiments, c'est elle qui sinue malhabilement, mais qui sinue dans toute tentative d'art, en tout cas dans toute littérature, dans toute écriture.
Dans son manifeste, Pipa Bacca avait choisi de citer les vers d'une chanson de Leonard Cohen sur Jeanne d'Arc. Elle a été adaptée, cette chanson, par l'Italien Fabrizio De André. « Je suis fatiguée de la guerre désormais, je voudrais retrouver la vie d'avant, une robe de mariée ou quelque chose de blanc pour cacher ma vocation au triomphe et aux larmes. »
Attraverso il buio, Giovanna d'Arco precedeva le fiamme cavalcando, nessuna luna per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco. Della guerra sono stanca ormai, al lavoro di un tempo tornerei, a un vestito da sposa o qualcosa di bianco per nascondere questa mia vocazione al trionfo e al pianto. La la la, la la la, la 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 la.
Vous fredonnez, Nathalie Léger?
Oui, elle est tout à fait mièvre quand même. C'est pas tout à fait ça que je fredonne.
La robe blanche, le nouveau récit roman de Nathalie Léger qui paraît chez POL, elle est ici avec nous pour nous en parler. France Culture, il est midi 21.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Nathalie Léger, dans votre précédent roman, Prix du Livre Inter, en 2012, votre mère faisait déjà irruption. Ici, elle revient en femme meurtrie, demandant à sa fille d'obtenir réparation auprès de son ex-mari, de la venger. Mais cette demande entrave la narratrice dans son projet d'écriture. Cette narratrice, est-ce vous, un peu vous, totalement vous? Si par faiblesse du cœur, il m'est impossible de porter plus d'une peine à la fois, écrit-elle. Et pourtant, quelle association faites-vous? Vous, Nathalie Léger, la romancière, entre ces deux conditions féminines, celle de nos mères et celle de cette jeune artiste de 33 ans, partie parcourir le monde, voyager pour y parler, distribuer le bien et assassiner sur cette route.
La souffrance de la mère n'est pas du tout la même que celle de Pipa Bacca, d'ailleurs. Pipa Bacca, c'est une tragédie cinglante qui surgit brutalement.
Elle n'est pas la même, mais cette mère aimerait que la narratrice la prenne en compte de la même manière. Parce que...
Petite ou grande douleur, dit la mère, c'est toujours la même chose. Donc si tu as du mal, ce qu'éprouve la narratrice, en effet, si tu as du mal à raconter l'histoire de Pipa Bacca, si ce geste immense est trop grand pour toi, alors il est temps, dit la mère, il est temps de t'occuper de ma souffrance à moi. C'est vrai que la narratrice se débat devant cette idée et elle explique à sa mère que sa souffrance, qui est la souffrance au fond, qui est une souffrance conjugale, est une souffrance assez banale hein, et qu'elle a mieux à faire. Et par ailleurs, il est vrai que ce que demande la mère à la narratrice, c'est de la venger de cette souffrance passée. Et il est un peu improbable, en tout cas difficile, qu'une mère demande à sa fille de la venger d'un père. Néanmoins, tout l'effort de la narratrice, et peut-être de l'auteur, avec elle, et par-dessus son épaule, tout l'effort de la narratrice, ça va être de transformer cette demande de vengeance en capacité, sinon heureuse, mais le plus harmonieuse possible, le plus cohérente possible, en capacité à dire le juste. Non pas venger, pas même rendre justice, mais dire, et de le dire dans l'écriture, c'est-à-dire, au fond, ajuster des vérités, ajuster des sentiments, et tenter de réparer le mal, les larmes, et d'instaurer peut-être un nouvel espace des sentiments, plus libre, affranchi d'une souffrance ancienne.
Est-ce le rôle de l'art de montrer ce qui est bien, d'effacer le mal? Est-ce le rôle d'une fille de venger sa mère? Est-ce qu'il est possible d'endosser comme une robe la douleur et le chagrin de quelqu'un pour y remédier, pour réparer? Je voulais vous demander de nous lire un extrait de votre robe de mariée. C'est un dialogue indirect entre la mère et la fille. Et je vous tends mon exemplaire.
Il faut continuer à décrire. Le plus difficile reste à faire, je t'avais prévenu. L'ordinaire de la douleur, le dépôt scrupuleux de la plainte, rien de grandiose, rien de tragique, pas d'héroïne, pas de triomphe, dit ma mère. Vas-y, il ne s'agit que de réparer. Et sa voix m'encourage avec lassitude, tandis qu'elle pose délicatement le dossier sur mon ventre. Je le sens à travers la couverture sous laquelle je suis enfouie depuis des jours, puis elle s'éloigne. Alors je crie que je ne veux pas, que j'ai déjà décrit, que je n'ai pas cessé dans mes livres de parler d'elle, que ça suffit. Je crie qu'il faut qu'elle arrête de mettre sa vie dans ce dossier et ce dossier dans la mienne. Je crie que ce n'est pas à moi de rendre justice pour elle, que sa cause est minable, que je veux retourner à mon sujet. Je crie que je n'ai rien à racheter, aucune vocation pour le rachat, que le rachat est la forme perverse de la vengeance, que je ne veux pas rendre justice, à peine ajustée. Voilà, ça oui, ça l'écriture peut le faire. Ajustée. Ajuster à l'aveugle, c'est peu et c'est décisif.
Nathalie Léger, alors que Emmanuel Macron vient d'annoncer la création d'un musée mémorial pour honorer la mémoire des victimes du terrorisme et acter dit-il, que les victimes du terrorisme ne sont pas des victimes parmi les autres, mais sont au cœur de notre fraternité nationale et de notre mémoire. Vous, vous écrivez dans La Robe Blanche, qui paraît donc chez POL, le rôle des monuments, qu'ils soient visibles ou invisibles, le rôle des commémorations, ce n'est pas seulement de raviver le souvenir des morts, pas seulement d'adresser collectivement un salut à la grandeur des actes, ni de transformer face à la mort l'impuissance en éloquence, mais c'est aussi, personne n'en parle bien sûr, de réclamer le recouvrement d'une dette, car derrière les hommages, derrière les saluts et les statues, derrière l'art ou la sociologie, et même derrière la générosité d'un pardon, il reste toujours soigneusement dissimulé, sauf à l'esprit d'une mère, un coin de buisson, la terre foulée, remuée, les objets disséminés, la marque d'un geste inhumain et le poids d'un corps. Ce petit livre, c'est aussi un petit mémorial que vous avez dressé.
Oui, j'y crois. Illusion peut-être, on en parlait tout à l'heure, mais j'y crois. La littérature, sa force, c'est sans doute de dresser ces petits autels devant des situations inextricables. C'est sans doute par là qu'on peut, dans l'intimité d'un cœur, dans le secret d'une mémoire meurtrie, et là encore, quelle qu'elle soit, par des souffrances toutes petites, ou par des tragédies collectives, réparer, se poser ici, se souvenir, et le faire pour soi, c'est soi seul. C'est une petite stèle sur un chemin très, très, très singulier, très, très personnel.
Réparer et transmettre, c'est un mot qu'on n'a pas encore ou peu employé. Nathalie Léger, votre roman fait partie de notre sélection du prix du roman des étudiants France Culture Télérama, aux côtés d'une autre auteure, POL, votre maison d'édition, Emmanuel Bayamaktam pour Arcadie, et de Yves Bichet, qui a écrit Trois enfants du tumulte au Mercure de France, Pauline de la Broalard pour Ça raconte Sarah aux éditions de Minuit, et enfin Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux chez Actes Sud. Peut-être que cette année, vous serez celle qui succédera à Maëlys de Kerangal, à Olivier Bourdeau, à Gaëlle Faye ou à Léonore des Recondo, qui avait emporté ce prix du jury des étudiants France Culture Télérama l'an passé. Au jury, en tout cas, d'en décider, aux étudiants. Pour l'instant, le jury est en phase de constitution. D'ailleurs, si vous êtes jeune, si vous aimez lire, si vous aimez vous forger un sens critique, allez vite voir sur le site de France Culture et envoyez-nous vos candidatures. C'est maintenant. Tout cela pour vous demander, et terminer avec ça, Nathalie Léger, ce roman, est-ce qu'il doit parler aussi à la jeunesse? Est-ce qu'il y a cette envie de montrer une route à travers cette figure de Pipa Bacca pour vous? Il ne montre que ça.
L'immensité de la littérature, c'est là qu'on le trouve, le chemin, je crois que c'est le mot. C'est là, et je dirais presque uniquement là, et à partir de là, on va dans le monde. Mais c'est là qu'il y a ce tremblement du cœur qui est celui de la pensée. C'est là que ça se bâtit, que ça se construit.
Nathalie Léger, La Robe Blanche chez POL, merci beaucoup à vous. Merci.